Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09, merci de nous rejoindre. Peut-être venez-vous d'arriver sur RMC. Eh bien, sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts, comme chaque samedi et dimanche. 6h, 10h, les meilleurs experts de France m'accompagnent. Le jardin à la maison le samedi. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Et là, on est au cœur de ce rendez-vous animaux. Sachez qu'exceptionnellement, notre rendez-vous auto ne durera qu'une heure, puisqu'à partir de 9h, vous retrouverez le Grand Prix de Malaisie en direct, en intégralité, avec toute la Dream Team donc d'RMC. Laetitia Barlerin est toujours là, à mes côtés. Et pour cette deuxième partie, on va débuter par les crevettes.
Par un concours de Miss Crevette.
Ah.
Nous sommes avec Johan Petitjean qui est éleveur amateur de crevettes et qui va organiser un concours de beauté de crevettes. Il aura lieu le week-end prochain, oui, à l'occasion du salon Animal Expo. Vous savez, c'est le plus grand salon sur les animaux de compagnie.
C'est au Parc Floral à Paris. Hein.
Exactement, comme chaque année. Bonjour Johan.
Bonjour Johan.
Bienvenue.
Bonjour.
Alors, dites-nous un peu le concours de beauté de crevettes. Alors, on parle de crevettes d'aquarium, hein. Ce ne sont pas les crevettes que, François, vous pouvez voir sur les étals.
Non, c'est pas celle-là.
Les poissonniers.
D'accord, j'ai bien compris.
Alors, justement, ces crevettes d'aquarium, dites-nous, Johan, d'où viennent-elles? À quoi ressemblent-elles?
En fait, c'est des petites crevettes d'eau douce qui font à peu près 2 cm maximum. À l'origine, bon, c'est des crevettes chinoises, mais elles ont été sélectionnées avec le temps, etc. Et elles ne ressemblent plus du tout à ce qu'on peut voir dans la nature. C'est des crevettes très colorées, en fait, petites, et puis il y a extrêmement plein de couleurs. Ça va du rouge au noir, en passant par le violet. Voilà.
Et j'en ai vu aussi qu'il y avait des petites taches. Enfin, il y a vraiment. Alors, justement, ce concours de beauté de crevettes, sur quels critères vous allez noter les crevettes?
On les note sur plusieurs critères, en fait. On les note sur un critère de taille, en fait, qui nous permet de savoir le niveau de l'éleveur par rapport à l'âge qu'a la crevette, quoi, en fait.
Et une crevette, ça vit combien de temps?
Une crevette, ça vit en général, maximum 2 ans et demi, quoi, à peu près.
Ah oui.
D'accord.
Quand même.
Et donc, plus elle va en âge, plus elle est grande.
Exactement, elle ne s'arrête jamais de grandir, quoi, en fait.
D'accord. Et donc, vous regardez la taille, vous regardez la couleur, j'imagine?
Oui, voilà, quoi. On regarde la taille, on regarde la couleur, on regarde la prononciation de la couleur qui va jusqu'aux pattes. On regarde aussi la définition des patterns, parce que ce qu'on pourrait appeler les dessins. On regarde aussi l'opacité du blanc, parce qu'elles ont toutes du blanc qui est une couleur qui est commune à toutes, quoi, quasiment.
Oui.
Puis on regarde aussi, je vous ai déjà dit, oui, la couleur des pattes, la couleur du dessin, la taille, l'homogénéité de la taille, parce que c'est des groupes qu'on juge, quoi, aussi.
D'accord.
Donc
d'accord.
Elles sont entre 3 et 6, quoi, en fait. Mm-hmm. Et on juge les 3 meilleures, si vous voulez, quoi. Enfin, les 3 plus belles sur les 6. Et sur ces 3-là, quoi, on regarde l'homogénéité de taille, l'homogénéité de patron et l'homogénéité, quoi, en général, quoi, en fait, tout simplement.
Alors, vous savez, ce que j'ai vu, moi, c'est que les crevettes d'aquarium connaissent vraiment, c'est une tendance en ce moment, en aquariophilie. D'où vient cet engouement pour des crevettes, hein?
Au niveau géographique, quoi, en fait, ça vient d'Asie. Ça viendrait plutôt
du Japon,
entre Taïwan et Japon, quoi, en fait, ouais. Entre Taïwan et Japon, ils disputent un peu la place régulièrement, mais ça vient de là-bas, quoi, effectivement.
Alors, si on veut avoir des crevettes, que mangent-elles? Parce que là aussi, on dit beaucoup qu'elles sont recommandées, comme solution bio, anti-algues dans les aquariums.
Ah oui.
Parce que les algues, c'est quand même un des grands problèmes des aquariums.
Donc ça nettoie les algues, ça les mange.
Alors en fait, quand il y a des animaux qui nettoient les algues complètement, quoi, ça n'existe pas, quoi, en fait, quoi. C'est à nous de créer un équilibre dans l'aquarium pour pas qu'il n'y ait d'algues. Si on rajoute des crevettes juste pour régler ce problème d'algues, ça ne la réglera pas, quoi, en fait, hein, tout simplement, quoi.
Alors, elles mangent quoi?
Alors, elles mangent, effectivement, un petit peu d'algues, mais c'est pas leur nourriture principale. Et elles mangent beaucoup, en fait, qu'on ne voit pas, en fait. C'est des micro-bestioles, c'est de la microfaune, ce qu'on appelle, en fait, quoi. Et cette microfaune, elle se reproduit, en fait, sur tout ce qui est un petit peu en décomposition, quoi, en fait.
D'accord.
Ah oui.
Voilà, alors... tout simplement, quoi. Et en fait, ces petites bêtes-là, on les voit pas à l'œil nu.
Ah, ce qu'elles mangent.
Mais voilà, tout à fait. Les petites bêtes qu'elles mangent, on ne les voit pas à l'œil nu. Mm-hmm.
Alors, vous avez dit que c'était bon, des toutes petites crevettes, hein. Elles ont maximum 2 cm, hein, c'est ça?
Voilà, en longueur. 2 cm, voire 3 cm, elles sont très vieilles, mais bon, là, on arrive dans des cas exceptionnels.
Alors, leur engouement l'engouement qu'on peut connaître en aquariophilie pour les crevettes va de pair avec l'engouement pour ce qu'on appelle les nano-aquariums. C'est les petits aquariums qui deviennent des
exactement.
Objets de décoration, hein, c'est vrai, dans nos salons, on a nos nano-aquariums. Alors, quel est le volume minimum d'un aquarium pour quelques crevettes?
Moi, je dirais, quoi, si c'est un truc qu'on veut qu'il soit un minimum durable, il faut qu'on fait entre 20 et 30 litres, en fait, à peu près.
20 et 30 litres, c'est quand même beaucoup.
Non, c'est à peu près le minimum. En fait, dans ce volume-là, aucun poisson peut vivre, hein, quasiment, quoi.
D'accord.
Ah oui, d'accord.
Donc on peut mettre... Voilà, on les fait pas cohabiter avec d'autres poissons, on met juste des crevettes.
Celles-là, oui, exactement, quoi. Les crevettes qu'on peut mettre avec des poissons, c'est les multidentataires. Oui. Et c'est ce qu'on appelle les crevettes japonica, qui sont grandes, qui ressemblent à des grosses crevettes grises comestibles, quoi, en fait. Et celles-là sont un peu plus grandes et on peut les mettre avec des poissons, quoi, d'accord. dans des aquariums communautaires. Mais sinon, pour les crevettes là qu'il va y avoir au concours, c'est déconseillé de les avoir avec des poissons, quoi, parce que là, ça les stresse et puis c'est leur prédateur, etc., quoi, en fait, tout simplement.
Yoann, ça coûte combien ces petites crevettes?
Ça va du tout, quoi, en fait. Hein. Ça peut commencer à 1 euro. Et puis, si on va dans la folie des Japonais, quoi,
ouais.
ça peut monter très, 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 très haut, quoi.
C'est-à-dire
ouais.
C'est-à-dire, ben, ça dépend, quoi, parce que c'est des enchères, c'est des trucs comme ça, donc ça peut monter très haut. Moi, j'ai déjà vu des trucs qui dépassaient les 1000 euros, quoi, en fait.
Ah oui,
pour une crevette.
Pour la crevette.
Voilà,
pour une crevette.
Ah oui.
Mais ça reste de l'ordre de l'exceptionnel, c'est pas ce qu'on voit tous les jours dans les aquariums.
Oui, bien sûr. Voilà, évidemment. Ouais. Bon, Yoann, quand vous en avez marre de tout ça, vous les mangez pas, vos crevettes, quand même.
Non,
jamais. Bien sûr.
Mais il n'y a pas grand chose à manger non plus, hein.
Bah, s'il y en a beaucoup.
Oui, il y a plus de carapace qu'autre chose.
Oui, il y a plus de carapace. Oh. Merci, Yoann. Et puis,
merci.
Donc, on se donne rendez-vous si ce sujet vous intéresse la semaine prochaine au Parc Floral, le week-end prochain, Laetitia.
Voilà, à Animal Expo. C'est un salon, le salon des animaux de compagnie. Vous verrez bien sûr des crevettes et ce concours, mais bien d'autres animaux,
oui.
des chats, des chiens, des, ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Voilà. Tout cet univers se retrouve au Parc Floral de Paris, pardon.
7h17, Laetitia. On revient dans un petit instant. On va poursuivre notre week-end des experts et on va parler des tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques. Le 3216, animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, les amis. À tout de suite.
RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Il est 7h19, le week-end des experts, les animaux. Notez que tout à l'heure, nous allons parler d'apiculture. On va pouvoir parrainer des ruches, Laetitia.
Pourquoi ne pas parrainer des ruches?
Eh oui.
C'est vrai, on parraine beaucoup d'animaux, on voit disparition dans le monde.
Oui, ça peut être sympa.
Mais ça peut être sympa.
Attention, on parraine des ruches et non pas des riches. Parce que parrainer des riches, ça n'a pas de sens. Mais parrainer des ruches, oui. Et puis, tout à l'heure...
Parrainer les riches, c'est les banques. Hein,
voilà, c'est ça.
C'est qui parrainent les riches.
Hein. Tout à fait. Et puis, on évoquera aussi les éléphants tout à l'heure.
Et
Laetitia.
Oui, parce qu'ils sont en déclin, mais il y aurait peut-être des solutions. Et ces solutions viendraient aussi peut-être du tourisme. On en saura plus tout à l'heure.
Voilà. Et puis, bien sûr, le 3216, animaux@rmc.fr. C'est votre rendez-vous dédié aux animaux. N'hésitez pas à nous appeler. Laetitia, on va poursuivre ce rendez-vous dédié aux animaux avec une bonne nouvelle. L'Europe interdit les tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques.
Voilà, elle les interdit Totalement. On va voir ça avec Audrey Jougla, qui est auteure du livre Profession animale de laboratoire aux éditions Autrement. Audrey, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Merci. Merci de nous rejoindre en studio. Alors, on vous avait reçu justement en début de cette année pour votre livre, parce que vous aviez effectué une enquête d'un an dans les laboratoires qui utilisent les animaux. Et là, on vient de le dire, la Cour de justice de l'Union européenne vient d'annoncer que les produits cosmétiques testés sur les animaux seraient interdits désormais en Europe. Alors, on est
serait ou sont
Alors, on est en droit de s'étonner parce que en 2013 déjà, on l'avait annoncé.
Ouais.
Alors, c'est quoi la différence?
Exactement. Alors, du coup, on était un peu perplexe quand on a vu ça. Enfin, en tout cas, je me mets à la place aussi des consommateurs. On se dit, bon, on nous a dit quelque chose au final. Qu'en était-il? Puisque.
Ouais, on nous aurait menti,
peut-être. En fait, c'est une réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à une question d'un syndicat de fabricants d'ingrédients, de produits cosmétiques, qui avait un doute, si je schématise un petit peu. Il se demandait, en fait, s'il pouvait commercialiser sur le territoire de l'Union européenne des produits qui avaient été testés pour des raisons de législation pour d'autres pays étrangers, par exemple la Chine ou le Japon, qui obligent les tests cosmétiques pour justement avoir
sur les animaux.
Exactement. Et donc il se posait la question, dans la mesure où les tests ont été faits pour d'autres pays, est-ce qu'on peut commercialiser en fait ces produits-là sur le territoire de l'Union si les tests n'ont pas été faits dans l'Union européenne? C'était un peu la question qui était posée.
Voilà, parce qu'en fin de compte la Cour européenne, enfin l'Union européenne interdisait les produits testés en Europe, en fin de compte.
Alors, ce qui était interdit, c'était les ingrédients et les produits finis, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y avait un flou sur cette question-là, et d'où la question, des fabricants, enfin du syndicat qui s'appelle l'EFCI. Et la réponse a été assez catégorique. La réponse de la Cour est en fait que dans l'esprit du texte de loi, en tout cas, qui est donc la législation de 2013, le consommateur ne veut pas, en fait, le consommateur européen ne veut pas de produits testés sur les animaux. Donc que ça a été fait en Europe ou ailleurs, ça n'a pas d'incidence sur l'entrée en fait et la commercialisation. Enfin voilà, c'est de toute façon l'esprit, c'est pas de test sur les animaux. Donc la réponse de la Cour est non, vous ne pouvez pas commercialiser ces produits-là en Europe.
Mais ça veut dire parce que il y a beaucoup de produits, parce que ça concerne ce qu'on appelle les produits de beauté, hein, tout simplement.
Les produits cosmétiques.
Cosmétiques, ça
c'est
va.
C'est l'hygiène.
On part du savon jusqu'au shampoing, jusqu'à la crème de visage,
les parfums,
les rouges à lèvres, etc.
On parle que...
Mais beaucoup de ces produits viennent de l'étranger. Bon, même si quand même on a notre savoir-faire français ou européen, mais il y a quand même ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits qui vont plus être vendus.
Alors, ce qui se passe en fait, c'est que il y a trois exceptions en fait. Si on
schématise, il y a toujours des exceptions à la règle.
C'est pour ça qu'il y a des logos et c'est pour ça que les gens sont un peu perdus parce que c'est pas clair finalement. Pour faire simple, il y a trois cas de figure, c'est-à-dire que l'interdiction donc de tests sur les animaux pour les produits cosmétiques, on parle que de ça. Ça concerne évidemment la mise sur le marché de nouveaux produits.
Ah, les nouveaux.
Les nouveaux, c'est-à-dire
les anciens,
après
mars
2013, après la législation, en fait, après l'entrée en vigueur de la législation.
D'accord.
C'est pour permettre un renouvellement, en fait, des produits. Deuxième exception, ça concerne que les composants qui sont utilisés à des fins cosmétiques. Donc, s'il y a des ingrédients, en fait, comme les solvants ou les stabilisateurs, les conservateurs, j'ai envie de dire, qui sont utilisés pour autre chose, par exemple en pharmacie, ça peut être testé sur les animaux.
D'accord.
Ça ne concerne que les ingrédients à vocation cosmétique. Et troisième exception, c'est que, évidemment, pour les composants ou ingrédients qui sont purement cosmétiques, ça peut quand même être testé dans la mesure où il faut protéger la santé des travailleurs qui vont faire le processus de fabrication. Donc, il y a quand même trois mais, en fait. Et ça, on n'en a pas conscience quand on parle de cette législation. Et effectivement, c'est un vrai plus. Cette nouvelle-là, c'est une vraie bonne nouvelle parce que c'est quand même une réaffirmation du droit européen qui dit les consommateurs ne veulent pas de ça, donc c'est non. Ça aurait pu être une réponse inverse. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais c'est pour ça, la raison pour laquelle il y a encore des logos, en fait, non testés sur les animaux.
Ça veut dire quand même qu'avant, un produit même français, par exemple un rouge à lèvres français, pouvait être testé à l'étranger et être importé
et
de l'étranger.
Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avant mars 2013, il n'y avait pas vraiment c'était pas arrêté, voilà. On ne savait pas trop, il y avait un flou sur cette question-là. Et c'est vrai que la législation, il y en a eu deux. Une d'abord sur les ingrédients, une autre sur les produits finis. Et ces deux législations régulations-là ont quand même bien défini les choses par rapport à la non-commercialisation de produits à partir de mars 2013, toujours, hein, puisque ça concerne pas ceux d'avant.
Alors, est-ce qu'on peut donner des marques de produits étrangers qui sont vendus en France?
Oui. Qui testent,
bah oui, trois, il faut en donner trois, parce qu'après c'est bon. Si on n'en donne qu'une.
Alors, c'est toujours compliqué parce qu'évidemment, donc ce qu'ils répondent, c'est qu'ils ne testent pas, ils respectent la législation, la sécurité. Alors moi, je leur écris régulièrement, hein, donc pour avoir des réponses quand même actuelles. Donc c'est toujours.
Et ils vont répondre ou pas?
Ça dépend. Alors, il y en a qui ne. J'ai aucune réponse et il y en a qui répondent des courriers assez du service juridique, évidemment. Où évidemment, c'est le respect de la législation en vigueur où les tests sont pratiqués uniquement si le pays l'oblige. Voilà, donc comme ça ils sont protégés derrière l'obligation. Mais par exemple, c'est vrai que pour ce qui est du groupe L'Oréal, qui a énormément de marques, c'est très compliqué de savoir précisément où ils en sont dans les tests, c'est-à-dire quels tests sont pratiqués. Concrètement, quelles expériences? Parce que moi, c'est ça qui m'importe en tant que consommatrice, c'est de savoir si derrière ce que j'achète, il y a il y a de la souffrance. Quelle souffrance? Comment? Quelles espèces? Et ça, il y a un flou total.
Et quelles espèces justement sont
alors c'est très souvent
où étaient ou sont c'est concernées
très souvent des rongeurs et des lapins. Alors les lapins, pour une raison simple, c'est que les lapins en toxicité en fait ne se nettoient pas les yeux, ne pleurent pas ou très peu. Donc les tests de toxicité qu'on fait sur les yeux des lapins,
genre les mascaras.
Alors on leur met pas du mascara, mais c'est parfois c'est
ce
qu'on imagine.
On va pas les maquiller, quoi.
Voilà, mais
on va mettre les substances qu'il y a dans le mascara
pour irriter les yeux. Et c'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que quand on parle de tests cosmétiques, il y a un petit côté gentil, enfin dans l'expression, on n'a pas l'impression que c'est très très invasif ou très. C'est des tests qui sont extrêmement cruels. Et ça c'est vraiment important de le répéter parce que les gens ne se rendent pas compte de la souffrance qu'il peut y avoir derrière.
Donc, bon, en tout cas, vous êtes là aujourd'hui pour nous dire que on va dans le bon sens.
Oui, et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est parfois on se sent un petit peu désemparé par rapport à ce genre de sujet. On se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Alors évidemment acheter les marques, soutenir les marques qui mettent
comment,
en avant.
Mais comment le savoir? Est-ce alors, qu'il y a un logo?
Oui, il y en a plusieurs. Ils n'ont pas tous les mêmes. Il y en a qui prennent en compte le fait que la marque commercialise en Chine ou pas. Parce que ça, c'est important, puisque dès qu'une marque commercialise en Chine, elle teste.
Par obligation.
Évidemment, légale. Effectivement, il y a un logo qui est celui de One Voice. Il y en a un autre qui est Cruelty Free de PETA. Il y a pas mal de petits logos. Et on trouve des listings de marques vraiment très facilement. J'incite vraiment tous les auditeurs à faire juste cette petite recherche pour savoir à peu près qui fait quoi.
On trouve ça très facilement sur le web.
Exactement, sur Internet, on trouve ça très facilement. Et il y a plusieurs listings. Et après, c'est vraiment une question de changement d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas forcément des marques qu'on va trouver en grande surface comme on avait l'habitude parfois, sauf le petit Olivier, je peux citer je pense cette marque-là, puisque c'est une marque qui courageusement a refusé de commercialiser en Chine, par exemple.
D'accord.
Ah oui, bah, du coup, il se ferme à quand même de certaines...
Exactement.
Certains marchés.
Mesdames, on revient dans un instant, il est bientôt 7h30, le 3216 ou animo@rmc.fr si vous voulez réagir, on va retrouver la météo, les infos et on est de retour. À tout de suite.
RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
7h32, merci de nous rejoindre. Et bienvenue, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Et à partir de 8h, nous irons au Mondial de l'Auto qui a ouvert ses portes hier pour le grand public. Bien évidemment, on va s'intéresser à ce grand salon, à ce grand rendez-vous dédié à l'automobile avec Jean-Luc Mouret, nos invités. Mais d'ici là, avec Laetitia Barlerin, on va évoquer tout à l'heure les éléphants, on va parler aussi d'apiculture, mais nous sommes toujours dans ces tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques, ces tests qui ont tendance, petit à petit, Laetitia, à disparaître.
En tout cas, ils sont interdits, c'est ce qu'on vient de le dire, avec Audrey Jougla, qui est toujours avec nous, auteur du livre « Profession animale de laboratoire » aux éditions Autrement. Alors, ce que l'on disait, c'est que certaines marques qui vendent dans certains pays, où là, on a une obligation quand même de tester tous ces produits cosmétiques sur les animaux, ces marques-là vendent vendent aussi en Europe. Alors comment Tous ces produits, est-ce qu'ils vont être autorisés en Europe?
Alors en fait, la réponse, et c'est pour ça que la réponse de la Cour, elle est assez importante, parce que même si c'est pas ça confirme en fait une intention juridique, comme le dit en fait, je reprends la phrase du communiqué de presse de la Cour de justice qui est très claire, l'accès au marché de l'Union est conditionné au respect de l'interdiction de recourir à l'expérimentation animale. Et finalement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les produits qui vont être testés pour le marché chinois, par exemple, ou le marché japonais, puisque ne sont pas commercialisés ensuite dans l'Union européenne.
Donc ça veut dire que les grandes marques devront faire des produits spécifiquement pour le marché asiatique, par exemple, et des produits qui seront différents. Alors, pour le marché européen.
Ça, c'est pour les produits finis, mais c'est vrai qu'après, il y a la question des ingrédients, évidemment, qui rentre en ligne de compte. Et comme je le disais, il y a quand même trois petites ou grosses exceptions. Ça dépend des catégories qu'on met par rapport aux cosmétiques. C'est-à-dire, il faut on parle des ingrédients uniquement à usage cosmétique et pas des autres qui peuvent être utilisés, notamment en pharmacie. Mm-hmm. Et ces ingrédients-là sont testés toujours sur les animaux, notamment en toxicologie. Donc, c'est plus dans le domaine, si vous voulez, des cosmétiques, mais c'est dans la toxicologie qui peut avoir un usage médical. Et ça, c'est quelque chose d'assez pervers, parce que finalement et c'est pour ça qu'il y a des marques qui revendiquent ne pas tester sur les animaux alors qu'il y a cette législation-là. Donc je comprends tout à fait quand en fait les consommateurs disent mais qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas compris, les informations sont contradictoires. Et c'est vrai qu'en tout cas la tendance elle est très forte. Et,
mais il y a déjà une tendance, parce que déjà cette législation pousse quand même les producteurs à chercher autre chose.
Tout à fait.
Ce qu'on appelle les méthodes alternatives pour tester les cosmétiques. C'est des méthodes, bien sûr, que vous défendez. Il y a certaines industries quand même qui disent qu'ils ne trouvent, enfin, qui se plaignent du manque de solutions pour tester leurs produits. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors ça concerne notamment ce qu'on appelle la toxicologie systémique, c'est-à-dire quand en fait le fabricant va dire j'ai besoin d'un organisme vivant entier. C'est assez simple à comprendre.
C'est-à-dire qu'il y a certains ingrédients, on a parlé par exemple des sels d'aluminium dans les déodorants. Il y a eu une étude récente qui disait qu'il y avait c'était un des facteurs du cancer du sein, ça serait un des facteurs du cancer du sein. Comment peut-on faire avec ces méthodes alternatives? Quelles sont ces méthodes alternatives?
Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de modélisations, évidemment, qui modélisent, en fait, alors les réactions des organes. C'est très performant. C'est ce qu'on appelle les méthodes in silico. Il y a évidemment les méthodes in vitro. Il y a les méthodes ex vivo. C'est des tissus qu'on utilise. Mmh. Et surtout, et ça, c'est très peu connu, mais il y a des reproductions, par exemple, de peau. Donc ça, c'est pas de la toxicologie systémique, comme on le disait. Mais c'est très utilisé, notamment L'Oréal, un laboratoire qui s'appelle Episkin, qui reproduit de la peau humaine et qui permet d'éviter les tests sur les peaux d'animaux vivants et évidemment la souffrance animale, puisque
c'est une peau qui a les mêmes propriétés que notre peau.
Tout à fait. Ça se fait beaucoup, et il y a aussi une autre société qui produit de la peau avec de l'imprimante, une imprimante 4D qui produit de la peau humaine. Ça se fait de plus en plus, et ce que disent effectivement tous les fabricants d'ingrédients, etc., c'est que la législation a été finalement appliquée assez vite. Qu'ils ont été un peu pris de court et que ça a encouragé le développement on voit bien que c'est d'abord la société civile qui est consciente d'un problème, qui se mobilise, ensuite le droit et finalement le secteur privé, etc., et la recherche qui se met en place derrière. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important que la société civile soit à la base de tout ça, et c'est pas inutile. Plus on est sensibilisé, plus il y a des projets justement européens qui peuvent être appliqués et mis en place, et c'est ce que disent tous les députés.
Mais est-ce que concernant justement cette peau, l'effet sur la peau, on peut le voir sur cette peau artificielle, on va dire, mais l'effet systémique, c'est-à-dire dans l'organisme.
Et ben voilà, et là c'est très compliqué.
C'est un problème.
C'est très compliqué parce que
le produit va dans la peau mais peut aller dans le sang,
atteindre l'organisme.
Exactement. Alors il y a quelques solutions qui existent, notamment il y a une solution qui est développée par une entreprise qui s'appelle Celescreen, qui a trouvé en fait le moyen d'utiliser un verre qui s'appelle le verre C élégance.
Un verre
de terre, un tout petit verre.
Ah,
le C élégance, voilà.
Ouais.
Qui est un petit verre qui est très connu en recherche. Et en fait, ce verre-là permet donc de reproduire la toxicologie systémique avec une ingérence, une ingestion, pardon, du produit, bien sûr, et de voir les effets.
Alors après, les détracteurs vous diront que c'est inverse, n'est pas un mammifère.
Alors moi, je suis désolée, évidemment, je suis abolitionniste et mon propos, c'est évidemment de défendre tous les animaux. Et pour moi, le poisson a les mêmes droits que le chimpanzé. En revanche, je trouve quand même que c'est mieux de faire ça sur des vers que sur, enfin voilà. Je pense que c'est quand même le sens commun.
On peut imaginer que le degré de souffrance du ver ne soit pas le même, en tout cas comparable à un animal.
Oui, et puis en plus en termes de voilà de évidemment de souffrance, de nuisance, de conditions de vie, etc. Je pense que là c'est quand même.
En tout cas, les Pays-Bas entendent de mettre fin à tout test sur les animaux, que ça soit pour les cosmétiques, bien sûr, on vient d'en parler, mais aussi pour d'autres, pour les laboratoires, la recherche, d'ici 2025.
Oui.
Alors est-ce qu'on trouvera des méthodes? Alors, bien sûr, ils demandent à connaître des méthodes alternatives, hein, justement. Est-ce que d'ici 2025, on pourra ne plus faire de tests sur les animaux?
Alors, ça, c'est une excellente nouvelle, effectivement, qui a été relayée par PETA. Et c'est vrai que ça pousse, comme je le disais, ça met des délais, en fait. Mmh. Ça permet d'avoir des objectifs. Et si on n'a pas ça, il se passe rien, il y a une certaine inertie. Et j'en profite pour mentionner le projet pilote qui a été validé par la commission du budget de l'eurodéputé Younous Soumarji, qui justement met en avant le développement, le financement des méthodes alternatives. Donc ça va dans ce sens-là aussi. Et ça, c'était la semaine dernière. Donc c'est aussi une bonne nouvelle qui est tout à fait récente. Et tout ça, ça va. On voit bien que c'est un contexte en fait qui est vraiment porteur d'espoir en tout cas. Ça
pour une fois qu'on a une bonne nouvelle,
on
peut se satisfaire d'un sujet grave, c'est bien.
C'est
et en 2025, alors là, on sabre le champagne.
J'espère. Alors en tout cas, il faut toujours des précurseurs parce que vous savez, enfin, c'est très net. On voit quand il y a des pays qui commencent à avoir une législation positive dans ce sens-là, il y a une pression qui s'accroît sur les autres pays. Et effectivement, ça paraît très long à notre petite échelle. On se dit oh là là, c'est impossible. Mais ça commence par les cosmétiques et ça s'étend. Et finalement, c'est une propagation du droit qui est assez assez bénéfique.
Parfait, merci beaucoup Audrey.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle Profession animale de laboratoire aux éditions Autrement.
Oui, et je voulais juste rajouter une petite chose. Oui. Je sais que le livre effraie beaucoup et on se dit oulala, je ne veux pas lire ça.
Voilà. Ce que j'allais dire justement.
Parce que mais s'il vous plaît, je dis à tout le monde, lisez les premières pages parce que c'est pas.
On est dans une enquête.
Voilà, et c'est important de le dire parce que je sais que le sujet fait peur et.
C'est vrai.
Ouais.
Peut
choquer.
Alors qu'en fin de compte, c'est juste, on est comme dans une enquête. Vous parlez à la première personne. Vous allez dans les laboratoires. On voit un peu comment vous rentrez dans les laboratoires parce que c'est quand même un peu.
Ouais. C'est compliqué.
C'est très compliqué. Hein, les portes ne s'ouvrent pas comme ça. Et justement, on lit ce livre comme une enquête.
Merci beaucoup, Laetitia. On a parlé des vers de terre. Maintenant, on va aussi s'intéresser à un tout petit animal. Après, ça sera un énorme. On va évoquer les abeilles et l'apiculture.
Voilà. Et nous sommes avec Olivier Demetsch, qui est cofondateur de l'association Un Toit pour les Abeilles, qui propose de parrainer des ruches. Olivier, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, parrainer des ruches, c'est quand même un concept innovant. Pourquoi un tel projet?
En fait, comme toutes les entreprises qu'on crée, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu par hasard. Tout d'un coup, on a été sensibilisé à la question de l'apiculture par un ami. Et on a souhaité installer une ruche pour notre équipe. Et puis, on a commencé à faire de l'apiculture en équipe. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais il y a peut-être d'autres entreprises, d'autres personnes qui aimeraient participer à notre aventure. Et puis, c'est comme ça que cette aventure a commencé en 2009, lorsqu'on a voulu participer à la mise en avant de la problématique de l'abeille dans le monde.
Oui, parce qu'on sait, et ça on en parle souvent dans notre émission, que il y a encore des menaces, beaucoup de menaces qui pèsent sur les abeilles, l'apiculture. D'ailleurs, il paraît que les derniers chiffres sur les récoltes de miel en 2016 sont catastrophiques.
C'est catastrophique en effet, parce que on est dans la pire année jamais connue. Si vous voulez, en 2016, on a récolté à peu près 9000 tonnes de miel. Il y a 20 ans, on était à 35 000 en France. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Cette année, c'est vrai qu'il y a eu une météo un peu particulière.
C'est vrai aussi.
L'hiver a été très doux et du coup, les abeilles n'ont pas eu de pause hivernale.
D'accord.
Donc, elles ont puisé dans leurs réserves. Ensuite, on a eu de la pluie.
Beaucoup de pluie et des inondations.
Exactement. Donc, les abeilles sont pas trop sorties. Mmh. Et puis ensuite, l'été a été très sec et les fleurs sont pas restées très longtemps. Donc, c'est vrai
ça,
que c'est une année
plus le reste. Plus
voilà,
le reste.
Exactement.
C'est-à-dire les pesticides, bien sûr.
Exactement. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte dans la disparition de l'abeille. Les pesticides, la monoculture aussi, parce que quand on a une abeille, ça va à quelques petits kilomètres à la ronde de la ruche. Et quand autour, on n'a que du maïs ou que du blé et qu'il n'y a pas de diversité alimentaire, ben forcément, ça affaiblit aussi l'abeille.
Mm-hmm.
On a le varroa, qui est aussi...
un parasite de la ruche. Mm-hmm.
Exactement, un parasite de la ruche. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui mettent en danger l'abeille. Et au-delà de la préservation de l'espèce, qui est déjà quelque chose de très noble, bien entendu, ben, l'abeille, on en a vraiment, vraiment besoin.
Alors justement, le fait de parrainer les ruches, concrètement, comment ça se passe? On aide, en fin de compte, des apiculteurs à acheter un essaim, acheter une ruche, à reprendre, à augmenter un petit peu le nombre de ruches qu'ils ont, c'est ça?
Exactement. En fait, lorsque vous parrainez une ruche, vous soutenez l'installation d'une ruche chez un apiculteur. Vous allez avoir des nouvelles de cet apiculteur, des nouvelles de votre ruche. Vous allez pouvoir avoir une page où vous verrez des photos, parfois des vidéos de votre ruche. Et puis à la fin de l'année, vous allez recevoir des pots de miel avec votre étiquette personnalisée, soit au nom de votre famille, soit au nom de votre entreprise ou de votre organisation.
Quel est l'intérêt par rapport au fait d'acheter, je sais pas moi, des pots de miel sur un marché auprès d'un apiculteur français?
Et bien, la différence, c'est que vous allez le soutenir sur la durée. Bien sûr, acheter du miel sur le marché, c'est toujours quelque chose de très positif et ça garantit la plupart du temps que le miel est un miel local et de terroir, ce qui n'est pas le cas dans les supermarchés malheureusement.
Oui, il faut faire attention aux étiquettes, hein.
Alors, quand vous regardez les étiquettes dans les supermarchés, les trois quarts des miels du rayon, si vous retournez un petit peu le pot, il y a écrit « mélange de miel issu de l'Union européenne et de pays extérieurs à l'Union européenne ».
C'est-à-dire de Chine?
C'est-à-dire du jifoutou du miel. Voilà, on met du mélange. Ouais. Et ça correspond aussi à notre attente parfois d'avoir un miel stabilisé qui est tout le temps le même. Donc ils sont obligés de faire, ils font des mélanges pour vous offrir tout le temps la même qualité avec le miel liquide qui descend bien dans la pompe. C'est-à-dire le miel, c'est un peu comme le vin. En fonction des années, en fonction du terroir, il va être différent. Parfois, il va cristalliser, parfois pas, etc. Et c'est ça qui est magnifique.
Ouais, oui. Voilà. Et tous les miels ont des goûts différents, c'est ça. Enfin, vouloir faire un miel qui a toujours le même goût, comme on peut en avoir en supermarché, c'est sûr que là, on n'a pas la qualité non plus.
C'est pas nous qui faisons le miel, hein, c'est l'abeille en plus. Donc après, on peut s'amuser à le mélanger, mais. Et alors, ce soutien, c'est un soutien vraiment aussi au long cours. Les apiculteurs nous disent. Si vous n'étiez pas là, on aurait déjà mis la clé sous la porte.
Parce que
ils sont soutenus. Mmh. Ah, beaucoup, oui. Il y en a qui n'auraient pas pu s'installer. Et il y en a d'autres qui ont perdu toute leur ruche une année, par exemple, ou les trois quarts de leur ruche, et qui ont continué l'aventure grâce aux milliers de parrains, d'un poids pour les abeilles, qui les soutiennent financièrement, parce qu'en fait, ils parrainent. Et donc, l'apiculteur sait que d'une certaine manière, son miel est vendu à la fin de l'année.
Si oui, il est prévendu. Oui.
Économique.
Oui.
Et puis, il sait aussi qu'il y a des gens derrière lui à qui il doit donner des nouvelles. L'apiculteur, c'est un métier assez solitaire. Beaucoup d'apiculteurs, pas tous, mais le choisissent aussi pour ce caractère de solitude. Et en même temps, se savoir soutenu, envoyer des nouvelles. Nos parrains sont très actifs, ils envoient des messages aux apiculteurs, etc. Ils savent qu'ils sont dans une démarche aussi collective et qu'ils sont soutenus. Donc, il y a aussi un énorme soutien moral.
Et on peut aller les voir aussi, je crois.
Exactement.
On peut aller visiter nos ruches.
Vous pouvez aller visiter vos ruches quand vous voulez. On organise chaque année des portes ouvertes particulièrement. Mm-hmm. Et vous pouvez aussi aller voir vos ruches sur le terrain. Ouais.
Et c'est sans danger, bien sûr.
On prend toutes les précautions. Hein,
on met le costume quand même.
On arrive en char d'assaut. un truc tranquille, quoi.
Tranquille.
Voilà. Alors, j'ai appris qu'il fallait prendre un costume clair parce que sinon, les abeilles sont excitées si on
c'est
met des
vrai.
Couleurs. Voilà.
Ah, là, vous êtes
c'est pour ça qu'on est en blanc.
Là, vous êtes en marron foncé. Il ne faudrait pas que vous soyez à côté d'une ruche.
Parce que si je suis un peu rouge aussi, c'est comme les taureaux.
Les taureaux.
C'est excitant.
C'est vrai qu'elles sont sensibles à la couleur, Olivier.
Alors ça, je dois vous dire que je pense que ça dépend peut-être des abeilles.
Ah oui, c'est ça.
Ça dépend du terroir, etc.
Ça coûte combien de parrainer une ruche?
Alors lorsque vous pouvez parrainer à partir de 8 euros par mois, un dixième de ruche, comme on dit. Et à la fin de l'année, vous avez, vous recevez 6 pots de miel. Et puis les
avec
entreprises.
Avec son nom dessus, quand même, hein.
Voilà.
Donc c'est super comme, c'est bien parce que à la fin de l'année, c'est le moment de Noël des cadeaux. On peut offrir son miel quelque part.
Et ben, pour tout vous dire, nous, on pense qu'il y a deux vrais moments où, les parrains d'un pot pour les abeilles soutiennent particulièrement l'apiculture. Mmh. C'est au moment où on aide, l'apiculteur à s'installer. Ensuite, il y a tout le long de l'année où on le soutient, etc. Donc là, quand on fait ça, on soutient la filière française aussi de production de miel et on est vraiment actif. Et puis, il y a le moment où vous partagez votre miel un peu pour les abeilles. Mmh. Et là, vous parlez de votre aventure, vous parlez de votre apiculteur. Et puis, le parrain vraiment décuple la sensibilisation et à la problématique.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà. Merci. C'est l'opération Un Toit pour les Abeilles. Il y a un site internet, Un Toit pour les Abeilles. Lesabeilles.fr. Voilà.
Parfait. Laetitia, il est pratiquement 8h10 et on va dans un instant s'intéresser aux éléphants. Peut-être qu'on peut sauver les éléphants. Et peut-être.
Il y a d'autres solutions que les solutions qu'on a aujourd'hui qui, en fin de compte, ben, il n'y a pas beaucoup de résultats, enfin très peu, parce qu'il y a encore un déclin du nombre d'éléphants.
Et pourtant, c'est un animal tellement sublime. On en parle dans un instant. 3216 ou bien animaux@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite.
RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Moins 10, le week-end des experts, les animaux. À partir de 8h, juste après la météo et les infos, nous irons au Mondial de l'automobile avec Jean-Luc Moreau, mais aussi avec Didier Laurent, Guillaume Crunel qui nous rejoindra, et puis aussi Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de Zéro Net. On s'intéressera au trophée de la voiture connectée que vous avez peut-être suivi cette semaine sur Zéro Net TV, en ma compagnie d'ailleurs. Laetitia Barlerin. Avant d'aller au Mondial de l'Auto Porte de Versailles, on va s'intéresser à un gros animal.
Voilà. Eh oui, un des plus gros sur Terre quand même.
Oui, mais quel animal majestueux. Et aussi un animal très intelligent.
Oui, et puis qu'on adore bien sûr, mais malheureusement on n'a pas de bonnes nouvelles. Et nous sommes avec Julien Marché, fondateur de l'association des éléphants et des hommes. Julien, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, les éléphants d'Afrique et même ceux d'Asie vont mal, très mal. Hein. En tout cas, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui le dit. Cette semaine, elle dit que malgré leur protection, les populations sont en déclin. Est-ce que vous avez des chiffres et est-ce que c'est toujours et encore un problème de braconnage ?
Alors pour les chiffres, les derniers chiffres estimés effectivement montrent une baisse puisque on estime pour la population africaine la population à 415 000 éléphants, alors qu'il y a 7 ans on estimait autour de ce sont des estimations donc c'est à prendre avec précaution mais plutôt tout autour de entre 500 et 700 000 éléphants. Et c'est le cas aussi,
malgré leur protection.
Malgré leur protection, voilà. Alors, en revanche, ça n'est pas que le braconnage. Le braconnage est une cause principale des menaces sur les éléphants, mais il y a aussi la destruction de leur milieu naturel.
Et là, on a vraiment des endroits où ils sont plus touchés que d'autres, enfin des pays plus touchés que d'autres.
Alors oui, bien sûr, il y a des pays qui ont connu, notamment dans les 10 dernières années, des crises du braconnage. On pense au Cameroun avec en 2012 un épisode de braconnage massif sur le parc de Boubanjida. On pense aussi à certaines régions du Gabon où des estimations montrent qu'il y a eu une chute de plus de 60% de la population. On pense aussi au sud de la Tanzanie, qui aussi a été très touché par le braconnage. Oui.
Et pourtant, c'est un pays très touristique. Alors justement, avec d'autres associations, vous proposez comme solution pour sauver les éléphants, l'Elephant Watching. Alors dites-nous ce qu'est l'Elephant Watching.
Alors l'Elephant Watching, c'est, pour faire court, l'écotourisme lié aux éléphants. C'est-à-dire un touriste qui effectivement va permettre d'aller voir les éléphants, mais évidemment le reste de la nature et de leur milieu naturel.
C'est le safari.
C'est un safari, mais effectivement dans l'esprit de l'écotourisme, c'est-à-dire avec des exigences un peu plus responsables. Et pour résumer, l'écotourisme, c'est un tourisme qui est à la fois économiquement viable, socialement responsable et équitable, et écologiquement respectueux de la nature et de l'environnement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un site d'éléphants, à éléphants, enfin, c'est-à-dire un site où il y a beaucoup d'éléphants est visité par les touristes, plus leur population sont protégées.
Alors, c'est la situation la plus complexe, mais globalement, oui. C'est-à-dire que quand on voit des sites qui sont bien valorisés, vous parlez de la Tanzanie qui est touristique, c'est vrai, mais le sud de la Tanzanie est beaucoup moins touristique que le nord de la Tanzanie. Et le nord de la Tanzanie, les populations d'éléphants sont un peu touchées par le braconnage, mais beaucoup moins que dans le sud de la Tanzanie, qui est moins bien valorisé touristiquement.
Et on a des chiffres, on a des résultats sur l'éléphant watching?
Alors, l'éléphant watching, c'est un mot qu'on utilise un peu pour renforcer l'écotourisme et aux éléphants, mais le tourisme et aux éléphants, finalement, les safaris existent depuis longtemps, donc on a du recul. Et effectivement, les pays qui se sont le plus tôt lancés dans la valorisation des éléphants par le tourisme, aujourd'hui, ont des populations plus fortes que les pays qui n'ont pas valorisé ce patrimoine naturel. Je pense au Botswana, qui est un pays qui a aujourd'hui le plus d'éléphants en Afrique, avec 130 000 éléphants sur donc probablement 415 000, donc quasiment environ un tiers de la population, oui. Et qui a très tôt misé sur un tourisme respectueux de la nature et qui aujourd'hui a une population très saine d'éléphants en bonne santé. Il y a d'autres pays que le Botswana, il y a l'Afrique du Sud aussi, oui. le Kenya, l'Inde, le Sri Lanka, et donc tous ces pays, si ce n'est pas la totalité du pays qui préserve bien ses éléphants, c'est au moins des régions où l'écotourisme s'est bien développé et les éléphants sont protégés.
Parce que là, ils s'aperçoivent que c'est une richesse d'avoir ces animaux, puisque ça attire des touristes, donc des devises, etc. Mais enfin, on sait aussi que la cohabitation localement entre les éléphants et les populations peut poser des problèmes. On a des problèmes, par exemple, d'éléphants qui saccagent des récoltes.
Ah oui.
Alors, je sais que votre organisation œuvre aussi pour qu'il y ait localement une cohabitation harmonieuse.
Alors, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un problème. Le problème de la conservation des éléphants, c'est en fait un problème de coexistence entre les hommes et les éléphants. Donc vous avez raison, il y a des problèmes de cohabitation. Alors, il y a des solutions qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre pour améliorer la cohabitation par l'aménagement du territoire, par des techniques qui évitent que les éléphants entrent dans les champs des éléphants. D'ailleurs, qui utilisent au passage les abeilles, puisque vous parliez juste avant.
Mais je vais pas. Les éléphants ont peur des abeilles.
Ouais, enfin voilà, c'est effectivement une étude qu'il a montré au Kenya, et donc ça peut être utilisé. Mais pour revenir entre le lien justement entre les conflits hommes-éléphants et le tourisme, en général, quand le tourisme est bien développé, que c'est un écotourisme qui bénéficie évidemment aux habitants, on s'aperçoit que les conflits qui existent de toute façon sont quand même plus tolérés, puisque une partie de ces habitants bénéficient du tourisme, d'emploi et de revenus. Mais ce qui veut dire qu'il faut à la fois porter des efforts pour faciliter et améliorer la coexistence, mais quand il y a du tourisme à côté, c'est une incitation en plus. Donc c'est des choses qui sont complémentaires, toutes les deux importantes, mais qui sont positivement corrélées.
Alors pourtant, vous dites qu'il y a trois quarts quand même des espaces naturels où vivent les éléphants qui sont sous-exploités d'un point de vue touristique.
Voilà, c'est exactement le constat un peu de notre étude qu'on a menée donc pendant un an sur 544 sites sur les 50 pays où on trouve encore des éléphants. Et effectivement, il y a des sites où c'est très bien développé, c'est très bien fait, qui peuvent servir de modèle, mais on s'aperçoit que quand on regarde en détail, effectivement, on arrive à près de 3 sites sur 4 qui sont sous-valorisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tourisme suffisamment développé.
Merci beaucoup, Julien.
Merci beaucoup. Voilà, donc,
merci à vous.
Nous vous invitons à aller admirer ces pachydermes sur place.
Exactement.
Hein, voilà, parce que vous faites du bien. Alors, d'abord, c'est super de voir des éléphants dans la nature, mais en plus, vous leur faites du bien, puisque, comme dit Julien Marché, l'écotourisme favorise justement la protection de ces animaux.
Oui, parce que rappelons, sans mauvais jeu de mots, que l'éléphant est un animal sans défense. Merci, Julien.
Merci. Julien, alors je vous conseille d'aller voir le site de votre association, hein, Julien, deséléphantsetdeshommes.org.
Laetitia, on va se quitter avec notre petite vidéo lolcat de ce dimanche matin. Et alors là, j'adorerais avoir ce chien chez moi. Nous avons trouvé une petite vidéo d'un chien qui fait le ménage. Mais il fait tout. Il vide le lave-vaisselle. Il passe l'aspirateur. Il met le linge dans le lave-linge. J'adore.
Il fait le tri des couleurs quand même.
Il fait le tri des couleurs. C'est un chien exceptionnel. Et cette vidéo, elle vous attend sur la page Facebook de vos animaux sur
Donc,
RMC.
Mesdames, nous n'avons plus besoin d'un homme à la maison.
Exactement. Un chien vous suffit. C'est pas beau la vie quand
c'est
même.
C'est pas beau la vie.
Ouais. Bon, je suis pas sûr que Indy, votre chihuahua, y arrive quand même. Parce que pour vider la vaisselle, il rentre dedans, il n'arrive plus à sortir.
Ouais, c'est ça, voilà, c'est pour porter les assiettes, tout ça. Et puis le tri des couleurs, c'est pas son fort.
C'est pas son fort. Voilà, c'est ça.
Puis la température, tout ça, non, c'est pas son fort.
Laetitia, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, bon dimanche à tous.
Alors il y aura un autre Grand Prix la semaine prochaine, donc on se retrouvera pour une heure dédiée aux
animaux. Seulement une heure, mais ça sera une antenne libre pour vous, les auditeurs. Vous pouvez me poser des questions pendant une heure.
Un spécial mondial de l'auto dans un instant sur RMC après la météo et les infos. À tout de suite.